Bonjour tout le monde. Merci d'être à l'écoute de cette émission. Isabelle, avec vous, on passe les deux prochaines heures ensemble. Beaucoup de choses ce matin, comme d'habitude. Si vous avez attrapé les quelques minutes d'entrevue que mon collègue Paul Arcand et Christian Page sur les ovnis au Québec, ben je vous dis tout de suite que nous aurons, nous aussi, Christian, tout à l'heure, plus longuement, vers 11h35. Il va nous parler justement de ses observations qu'il a pu faire. Il vient de publier un livre intéressant là où il relate à peu près 80 ans d'incidents énigmatiques, entre autres au Québec. Alors, on aura Christian sur la présence d'ovnis au Québec. Je vais vous demander si vous y croyez. Hein? Puis ça va nous changer de la COVID, parce que je dois encore vous en parler d'entrée de jeu ce matin. Il y a quand même des choses intéressantes. Il y a quelques jours, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais il y avait, entre autres, ces tests là, rapides dont on nous parle depuis quelques temps, qui ont été envoyés en priorité à l'Ontario au détriment du Québec, j'allais dire, parce qu'on s'étonnait, effectivement. Puis il y a des députés québécois de l'opposition qui se sont étonnés du fait que l'Ontario reçoive avant nous des tests rapides de dépistage de la COVID. Et aujourd'hui, finalement, on sait, parce que le premier ministre Trudeau l'a dit hier, que le Québec recevra finalement, à son tour, 200 000 kits de tests de dépistage rapide de la COVID. Une semaine après l'Ontario quand même, mais donc 200 000 tests qui devraient nous arriver. On parle de ces fameux tests de dépistage rapide, vous savez, qui prennent à peu près 15 minutes, qui s'appelle ID Now, qui ont été commercialisés par la compagnie Abbott, qui est présente dans plusieurs pays sur la planète, dont au Canada et au Québec. Donc, l'Ontario a donc eu 100 000 tests rapides la semaine dernière. Nous, on devrait recevoir notre lot de tests. Est-ce que vous trouvez que c'est normal qu'on les ait reçus après? Parce que, considérant quand même que le Québec est la province la plus touchée, ce qu'on sait, c'est que ça devrait être envoyé au prorata de la population de la province. Mais en tous les cas, je trouve qu'il y a quand même là matière à poser plus de questions encore. Et aussi sur ce fameux test, d'ailleurs. Qu'est-ce que ça va changer, là, ce test de 15 minutes? Est-ce que ça va nous donner l'occasion à nous tous d'aller nous faire tester? Pourquoi je voulais parler de ces tests d'abord? C'est parce qu'en fin de semaine, il y a déjà des parties qui s'organisent et j'entends du monde dire, de toute façon, il n'y a pas de danger, je me suis fait tester. Ou j'irai me faire tester, puis comme ça, ça confirmera que je suis correct. Je ne sais pas où ce monde-là prend ça. Mais je veux dire, ça, là, on est dans la mythologie, les amis. Ça marche pas de même. La meilleure preuve, c'est qu'on va en discuter avec le microbiologiste Marc Hamilton. Bonjour, M. Hamilton.
Oui, bon matin, Mme Maréchal.
On entend toutes sortes d'histoires abracadabrandes en ce moment. Il y a beaucoup de parties d'Halloween qui se préparent. On est très étonnés d'entendre ça, mais effectivement, j'entends beaucoup de, entre autres, malheureusement, beaucoup de jeunes là, qui ont l'intention de s'organiser un party samedi soir. Certains qui disent, mes amis se sont fait tester. À moins d'avoir été en contact avec des gens qui l'ont eu, Marc Hamilton, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, un Québécois ne peut pas aller se faire tester pour le plaisir, là.
Bien, ils ne peuvent pas vous dire non. Naturellement, quand on veut se faire tester, il y a toujours une raison. Tu ne peux pas dire « je vais me faire tester parce que ça me tente aujourd'hui puis je n'ai rien à m'approcher ». Généralement, le gouvernement ne dira pas non. Ou quand tu vas dans un centre de dépistage, ils ne diront pas non parce qu'ils vont juste te demander « avez-vous des symptômes? Avez-vous fréquenté quelqu'un qui l'avait dans votre entourage? » Fait que si la réponse est oui, il va vous dire oui, même si vous n'avez pas de symptômes, vous allez faire, vous aurez droit à votre prélèvement. Donc, il n'y a pas de ségrégation comme on a connu le printemps dernier où est-ce que les tests, il y avait une limitation de 5 000 tests par jour. Aujourd'hui, le gouvernement peut aller jusqu'à 30 000 tests par jour. Et souvent, il n'y a même pas 30 000 personnes qui se présentent dans une journée pour se faire tester, tout dépendant des vagues. Des fois, là, c'est fou. Tout le monde va se faire tester en même temps. Il y a des journées qu'il y en a moins. Mm-hmm. Ça varie entre 20 et 30 000 par jour. Mais on a de la capacité pour le faire au Québec, là. Donc, les gens peuvent y aller dès qu'ils ont un doute pour s'assurer qu'ils ne sont pas des porteurs asymptomatiques.
Oui. En même temps, de maintenant au party d'Halloween, là, qui normalement devrait pas avoir lieu parce que c'est interdit de se rassembler, on s'en souvient, c'est pas une bonne idée d'aller faire la file ou d'aller essayer de se faire tester, là.
Ben, écoutez, faut pas prendre le gouvernement pour faire des tests, pour se donner une permission de déroger par la suite. C'est le but, c'est pas, ah, regarde, je vais faire un, c'est comme un exemple, hein, je vais aller me faire tester juste avant, je suis correct, mon parti dans deux jours, je vais y aller. Mm-hmm. Et, écoutez, c'est si tout le monde fait ça, ça va être ridicule. C'est pas ça le but de se confiner puis de se tester au cas où qu'on l'aurait. Dites-vous une chose, quelqu'un qui se fait pas tester, puis même à tous les jours, les conditions peuvent changer, hein. C'est parce que si un exemple, mettons, là, qu'on prend un jeune, OK, qui dit, ah, ben là, moi, je vais aller me faire tester, mon party est samedi, ça me prend 4-5 jours à voir mes résultats, ben je vais y aller aujourd'hui, puis samedi, si j'ai mes résultats, je vais être correct. Mais le problème qu'il y a, là, mettons qu'il sortirait négatif, là, le samedi pour son party, OK? Mais il s'est passé quand même des journées entre mercredi, jeudi, vendredi, que lui, il a continué à faire sa routine. Il a peut-être vu d'autres gens qui l'avaient. Il est peut-être devenu porteur asymptomatique après avoir fait son test. Et là, à ce moment-là, c'est là que on fait trop confiance aux résultats, puis on peut être infecté, puis semer la zizanie, puis propager la maladie. Mmh. Donc, s'il n'y a pas de remède parfait, là, je pense que c'est pas une solution de penser d'aller se faire tester pour se donner le droit d'aller d'un party après. Là.
Voilà. Parlons de ces fameux tests rapides, toutefois, parce que ça pourrait changer la donne. Là, vous parlez du nombre de jours que ça prend à avoir le résultat. Évidemment, quand on nous parle de ce test de la compagnie Abbott, qui pourrait donner un résultat en 15 minutes, c'est sûr que ça va changer la donne. Ou en tout cas, au moment où encore hier, Justin Trudeau disait, comme beaucoup d'experts le disent aussi, le dépistage fait clairement partie de la solution. Qu'est-ce que ce test rapide peut changer là, dans le portrait COVID à l'heure actuelle?
Attention, là, ce test-là ne réglera pas tous tes problèmes là, de rapidité et d'accessibilité. On sait qu'un test, le côté négatif de ce test-là, c'est que c'est pas un test à large volume. C'est un test qui fait environ 4 à 5 tests à l'heure. Donc, si vous avez 100 personnes qui attendent un test, ben 100 personnes, c'est sa capacité qu'elle va faire sur une journée complète, 24 heures, qu'elle marche sans arrêt. Donc, c'est des kits qui sont bons à utiliser dans des endroits chauds, des endroits où est-ce qu'il y a peu de monde à tester et que tu veux un résultat très rapide. Comme un exemple, un CHSLD, je veux tester tous les gens qui rentrent dans le CHSLD quand ils commencent leur shift. Tu sais, c'est pas, il y a pas 100 personnes en même temps qui vont se faire tester. Tu sais, c'est un petit peu tout le temps. Donc, ces petits kits-là, là, ça remplacera pas la capacité des hôpitaux, là. Parce que, imaginez, je sais pas combien de machines qui nous est réservées. 200 000 tests, ça peut être long à passer, là. Considérant que si on fait une machine, 200 000 tests, ça va fonctionner pendant 2000 jours, là, imaginez. Là. Fait que, imaginez, c'est même si on a beaucoup de réactifs, ça va prendre beaucoup de machines pour pouvoir les écouler parce que une machine fait 96 tests dans une journée. Donc, c'est des machines qui vont être utilisées, comme je disais bien, dans des endroits où est-ce qu'elles ont le plus besoin d'avoir un résultat immédiat. Mais pour tester la population en général, comme on l'a présentement, ça ne changera pas, là.
OK. C'est pas du tout le système. J'ai essayé de comprendre, là, c'était quoi ce test, là, ID Now. Je suis allée sur le site de la compagnie Abbott, avec laquelle on a pris contact aussi. Il parle de dosage d'anticorps et d'un système Architect. Vous connaissez oui. ça, ce système-là? Oui. Est-ce que c'est en lien avec le test ID Now?
Bien, le test ID Now versus le test PCR conventionnel, c'est deux technologies différentes. Donc, on sait que le test PCR, comme on le connaît, a une précision que moi, je crois supérieure, surtout pour ce qui est des asymptomatiques, qu'un test rapide. Le test rapide, c'est un test antigénique qui va faire un genre de mini test PCR avec un cycle d'amplification. Et le test va être efficace si c'est une personne qui est un porteur asymptomatique, mais qui a beaucoup de cellules infectées en dedans de lui. Donc, je te dirais, c'est un bon compromis, mais moi, je pense que le test PCR est plus précis encore que le test antigénique de ID Now, mais considérant que les gens qu'on veut tester, ben c'est des gens qui sont porteurs puis qui devraient avoir une certaine quantité de virus en dedans d'eux. L'ID Now devrait être efficace à ce moment-là. Et c'est ce qui fait que c'est un test antigénique, c'est un test anticorps antigène, mais sur un cycle d'amplification plutôt que plusieurs cycles d'amplification à un test PCR conventionnel.
PCR, c'est pour?
Polymerase Chain Reaction. Donc, c'est une machine, c'est un instrument qui est utilisé présentement pour faire tous les tests PCR. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que l'avantage, c'est qu'on va amplifier le signal de l'ARN que vous avez en dedans de vous pour pouvoir être certain de le dépister à très faible dose. Donc, la précision d'un test PCR est, à mon avis, plus précis, plus juste, plus sévère que le test ID-NOR.
Mm-hmm. On a Jean qui nous appelle, qui justement, il croit avoir été en contact, je pense, avec des porteurs de COVID, donc il souhaite aller se faire tester. Bonjour Jean.
Bonjour Madame Marchal.
Expliquez-nous un petit peu.
C'est le type, il a été chez sa mère. Sa mère, elle est atteinte du COVID. Ils savent qu'elle a le COVID.
Okay.
Il a pris sa mère puis il l'a déménagé dans un autre endroit privé pour qu'elle ait des bons soins. Puis tout. Puis peu importe ce que ça coûte, ça, c'est son problème à lui. Mm. Sauf que il a été passé le test hier matin, mais dans la journée d'hier, il dit qu'il était jusqu'à 4 heures plus tard. Il a passé le test. Il n'y a pas de résultat, mais il rentre travailler pareil un matin. Y a-t-il quelque chose qui peut l'empêcher de rentrer travailler?
Oh, OK. Donc là, vous êtes. Donc c'est un collègue de travail?
Ben oui, puis jamais, au grand jamais, qui frotte sur nous autres le matin, qui viennent nous jaser pis tout ça. Le matin, quand je l'ai vu venir, j'ai mis tout ça de mon masque, mais je le voyais, il voulait s'approcher tout le temps, puis là, il venait me jaser, puis jamais qu'il nous jase ben le matin, et c'est un gars qui rentre quasiment plus tard le matin. Mais là, c'était quoi son but aujourd'hui? On va dans un Tim Hortons, on s'installe devant un Tim Hortons extérieur. Là, on ramasse nos toasts, on mange nos toasts, mais c'est ça, on n'a pas de masque à manger. Là, il s'en vient de nous rejoindre, puis qu'on s'en nous jaser, mais il nous colle plus.
Mais vous, ouais. Et vous êtes sûr qu'il a touché donc à sa mère, qui est une personne qui
ben
est atteinte de la COVID?
Ben oui, il en prend soin parce qu'elle a 89 ans. Mm-hmm. C'est lui-même qui l'a dit, tu sais. Il dit, maman, c'est important, là, tu sais. Ils l'ont testé, puis elle a le COVID. Elle a le COVID. Mais si elle a le COVID, puis t'es avec, c'est que tu fais l'ouvrage. Il était passé un test.
Ouais.
Ça, je comprends pas. Là.
Donc, vous dites, faudrait peut-être que j'aille en passer un parce que peut-être que.
Je prendrais pas de chance parce que mon épouse est diabétique, ça fait 55 ans. Je veux pas qu'elle peigne non plus. Parce que si on déchaîne, on déroule tout ça à tout le monde de même, et ça finira plus.
Oui, ben c'est intéressant, Jean, votre cas. Mark Hamilton là-dessus?
Ben écoutez, je pense que la personne qui s'est fait tester puis qui attend ses résultats, je pense que tous les gens qui se font tester, c'est parce qu'ils ont un doute que peut-être ils l'ont ou peut-être pas.
Ouais.
Ils devraient rester à l'écart et attendre. Oui, je comprends que c'est plate parce que des fois, ça peut prendre 4, 5, 6 jours, des fois plus. Mais ça, je pense qu'il faut rester à l'écart pendant ce temps-là et de rester en isolement. Donc, c'est de votre côté, parce que il s'est rapproché de vous, vous aviez un masque et tout ça. Moi, en tant que tel, j'attendrais qu'il reste ses résultats avant d'aller plus loin, là. Parce que si tout le monde pense comme vous, ça va être débile la quantité de personnes qui vont les faire tester, qui souvent vont être sortir bien plus souvent négatif. Donc, moi, je pense que, sachant ça, comme moi, j'ai eu souvent à répondre à ces questions-là dans le passé, c'est les gens qui attendent le résultat restent à la maison, s'ils décident de sortir, puis qu'ils vont dans un territoire où est-ce qu'ils sont en contact avec d'autres personnes, ben faut leur dire, tenez-vous à l'écart, portez un masque comme vous avez bien fait, mais moi, je pense pas que c'est une obligation d'aller vous faire tester. Si vous avez le temps, puis allez-y, ça a une disponibilité. Mais moi, j'attendrai que ces résultats sortent positifs avant d'aller plus loin.
C'est quoi les risques? Oui, Jean, vous aviez une autre question pour M. Hamilton?
Juste savoir bien vite. L'employeur a-t-il des responsabilités de dire aux gars de rester chez eux?
J'allais y venir, justement, c'est ça. Il y a deux questions. D'abord, un, est-ce que il y a la question de la responsabilité de l'employeur? Jean a tout à fait raison de rappeler ça. Puis si l'employeur est au courant de cette situation, Jean, normalement, il doit dire à son... Par responsabilité envers ses autres employés, il doit demander à cet employé-là de rester à la maison. Parce que Mark Hamilton, il y a quand même, vous dites, il devrait, ces gens-là, toute personne là, qui ressemble au profil du collègue de travail de Jean, qui attend un résultat, surtout si on sait qu'il a été en contact avec un proche qui a la COVID, pardon, il devrait vraiment se mettre en quarantaine, là.
Ben, idéalement, puis je pense que le CNESST le dit, si vous êtes en attente d'un test, restez à l'écart et de voir. Et toutes les gens qui ont été à 15 minutes, je dirais, à proximité, à moins de 2 mètres, plus que 15 minutes dans une journée, ces gens-là deviennent à risque et devraient rester à l'écart tant et si longtemps qu'ils n'ont pas reçu son résultat. Donc, l'important aussi, c'est quand on est à côté d'une personne qui est porteur de la maladie, il y a toujours le fameux 15 minutes là de proximité, parce qu'il faut quand même avoir un certain temps quand on est à côté d'une personne qui est asymptomatique. C'est pas parce qu'on est directement à côté d'elle que vous allez automatiquement l'attraper. Ça prend quand même un écart, ça prend quand même une charge virale que vous allez rentrer en contact, que vous allez respirer. Donc, il faut considérer ça. Fait que la CNESST dit que si une personne a été positive dans votre milieu de travail, tous les gens qui ont été à moins de 2 mètres pendant plus de 15 minutes cumulatifs, pas 15 minutes d'une shot, là, 15 minutes, 2 minutes par-ci, 2 minutes par-là sur une journée de travail, ils deviennent autant à risque et ces gens-là doivent être aussi testés parce qu'ils deviennent à ce moment-là possiblement porteurs. Donc, c'est comme ça que on fait l'anamnèse des problématiques dans les entreprises.
Ah, oh, Marc, vous venez de dire cumulatif, c'est-à-dire un 2 minutes à machine à café, puis là, tu n'es pas à côté forcément, mais après ça, tu le recroises un autre 5 minutes. Fait que c'est au total, mettons, dans la journée, tu as 15 minutes de contact.
Exactement. C'est pas 15 minutes. Les gens disent, ah, j'ai pas été 14, j'ai été 12 minutes à côté de lui, je suis correct. Non, non, c'est pas 15 minutes en ligne. Mm-hmm. C'est un petit peu tout le temps. Donc, c'est pour ça que des fois, c'est pas facile à trouver. C'est pour ça qu'il se crée des bulles aussi, hein, pour que les gens restent toujours ensemble pour éviter que tout le monde se contamine dans un local. Donc, ils vont dire, ben, toi, tu étais à côté de lui, tu travailles à côté de lui, les gens arrivent, ben, tu étais 10 minutes avec lui là, oui, je suis allé à la cafétéria, je suis allé 2 minutes avec lui. Puis quand tu fais l'anamnèse, il y a beaucoup de questions posées, puis tu calcules tes minutes. Fait que si tu es proche du 15 minutes cumulatif sur une journée, tu deviens une personne qui doit aller se faire tester ou qui doit être mise à l'écart parce qu'elle est à risque à ce moment-là.
Mais c'est toujours intéressant quand on parle du concept de bulle, quand on parle de COVID, parce que vous savez le propre de la bulle, hein? C'est qu'en général, on est tenté toujours de l'éclater.
Effectivement. C'est sûr que la bulle, quand on finit de travailler le soir, la bulle est éclatée parce que là, les gens font d'autres choses le soir puis ils peuvent se contaminer autrement. Ouais.
Évidemment, bon là, merci Jean de votre question. Ça nous a ouvert tout un champ là, d'autres questions. On va aller à la pause. On va revenir sur les risques aussi d'une personne comme Jean. Avec Marc Hamilton, c'est quoi son risque véritablement de l'avoir peut-être développé, d'être porteur à son tour en fait, et peut-être même de développer la maladie quand on est justement en contact avec quelqu'un comme ça qui a eu un contact très rapproché avec une personne malade. C'est pas clair, mais c'est pas simple en fait. C'est clair, mais c'est pas simple de convaincre les gens de rester en quarantaine. Et c'est vrai que la quarantaine est longue et c'est pour ça que je voulais qu'on parle ce matin de ces tests rapides parce que peut-être qu'à une plus grande échelle, ça peut nous permettre de moins voir ça comme quelque chose de contraignant. C'est sûr que dire à quelqu'un « Hey, reste chez vous pendant 14 jours », les gens ont tendance à pas vouloir le dire pour pas se couper 2 semaines du reste de la vie. Un test rapide permettrait peut-être justement qu'un plus grand nombre de gens soient plus responsables. C'est une hypothèse. Nous en discutons ensemble avec vos commentaires. 514-790-9850. Tout de suite après ceci. Bon, on parle de ces fameux tests de dépistage rapide de la COVID. Les laboratoires Abbott ont envoyé 100 000 tests déjà en Ontario. Ce fameux test ID Now, ça le dit, hein, c'est on identifie tout de suite, ça prend 15 minutes. Si vous avez la COVID, si vous êtes porteur de la COVID. Au Québec, on nous a confirmé hier que 200 000 tests rapides seront envoyés dans les prochains jours. Puis on a dit aussi que c'est un comité d'experts qui va déterminer de quelle façon ces tests-là vont être déployés un peu partout. On peut supposer que ça soit dans les régions justement où c'est pas facile de se faire tester. On a Sylvie qui est avec nous. Bonjour Sylvie, est-ce que vous avez l'intention, vous, de vous faire dépister pour la COVID?
Ben bonjour. En fait, je me suis fait dépister vendredi de la semaine passée.
Oui.
Parce que je travaille dans un hôpital à Montréal où on a eu une éclosion sur notre unité. Et aujourd'hui, je n'ai toujours pas mes résultats.
Aujourd'hui, mon Dieu, ça fait on est jeudi, demain ça va faire une semaine. Puis est-ce que vous travaillez toujours dans le même hôpital?
Ben en fait, oui, parce que j'avais un rendez-vous téléphonique avec mon médecin de famille qui a pu me donner mes résultats, mais les personnes qui étaient supposées me contacter, ça n'a jamais été fait à ce jour. Donc, il y a une incompréhension. Je me dis que mon dossier a dû tomber entre deux chaises. Et puis, mon interrogation, parce que j'ai pas de réponse à ça, pourquoi, quand on travaille en milieu hospitalier, et que nous allons nous faire tester, sans avoir nos résultats, on nous demande de continuer à travailler.
Mais oui, c'est tout à fait...
Alors, je peux comprendre que si on retire le personnel, il n'y a plus personne pour prendre soin des patients. Mais dans l'enseignement, par exemple, si vous êtes testé, vous devez attendre vos résultats avant de retourner enseigner.
Oui. On vient de le dire largement avec mon invité Marc Hamilton. Toutes les personnes qui sont en attente de résultats qui ont été en lien avec une personne infectée, devrait normalement rester à l'écart. Mais ce qui est étonnant aussi, bon, le fait qu'on vous demande de continuer de travailler, c'est clairement parce qu'on manque de bras, là, à un moment donné. Mais Sylvie, quand vous dites « c'est mon médecin de famille, finalement, qui, lui, a eu accès au test, mais moi, en théorie, personne ne m'a appelé à ce jour. Donc, si vous n'aviez pas eu ce lien avec votre médecin de famille, vous l'auriez toujours pas eu, votre test, votre résultat. »
Ben non.
Ouais. Là, vous l'avez eu, finalement, donc vous ne l'avez pas,
oui,
la COVID?
Oui, bon. Non, c'était négatif, c'était parfait, là. Ouais. Mais c'était un test systématique, vu qu'on avait eu une éclosion.
Ouais.
Mais je trouve ça un petit peu particulier qu'on doive rester auprès des patients, même si on prend des précautions, c'est-à-dire blouse, masque, visière, parce qu'on travaille quand même avec une population immunosupprimée, en tout cas sur l'unité sur laquelle moi je travaille.
Ouais, tout à fait.
Et puis, il y a comme deux poids, deux mesures. Il y a des choses qui sont un peu incohérentes.
Merci beaucoup, Sylvie. On a Sylvain qui est avec nous. Bonjour, Sylvain.
Bonjour. Moi, j'aurais deux questions à M. Hamilton.
Oui?
Ce serait la sensibilité du test CT45. On a un des tests les plus sensibles au Canada. Puis, à moins que je me trompe, mais en France, c'est CT23. Puis la deuxième question, je voudrais savoir si le test qui est de dépistage, il peut reconnaître le style de coronavirus, parce que le H1N1, c'est un coronavirus que moi j'ai déjà pogné, fait que si je passerais un test, je serais-tu un faux positif parce que le test, il me dépisterait mon H1N1 que j'aurais pogné il y a une couple d'années ou non?
Ouais. Marc Hamilton, sur la question là, du type de virus, c'est un virus ID Now spécifiquement qui cible la COVID-19?
Effectivement. Donc, on va chercher vraiment le gène spécifique qui appartient exclusivement à la COVID-19 parce qu'on sait qu'il existe plusieurs types de coronavirus, mais quand on fait le test ID Now, tout comme test de PCR, c'est vraiment le gène ciblé qui appartient qu'à lui, à la souche à laquelle qu'on vérifie, qui est testé. Donc, on peut pas donner de test positif à un autre type de coronavirus. Pour en revenir au H1N1, d'origine, ce n'est pas un coronavirus, ça reste une grippe porcine, une grippe qui vient du porc, donc c'est vraiment une influenza et non pas un coronavirus. Donc, il n'y a pas de corrélation possible entre une contamination croisée, qui fait que si vous avez été testé pour le H1N1, vous ne testerez pas positif ou négatif pour un test de coronavirus et vice-versa. Donc, c'est deux virus complètement différents et même au niveau de la génétique est complètement différent.
Mm-hmm.
Pour en revenir au test du CT20, CT45, ben, c'est des tests qui sont peu communs ici, mais on sait que le CT45, lui, a une possibilité d'aller chercher le test de cycle, les CT qu'il appelle au niveau PCR, il va se rendre jusqu'à 45, donc va être capable d'aller chercher des asymptomatiques ou des gens qui ont été infectés beaucoup plus longtemps en allant chercher ça. Donc, sa sensibilité va être un petit peu plus supérieure. Puis, le CT23 va être beaucoup plus pour des gens qui ont attrapé la maladie de manière plus fulgurante et qui sont très positifs en tant que tel. Donc, le CT23, c'est plus les gens qui sont en phase de maladie entre, je sais pas moi, de 0 à 3 jours, aller jusqu'à 8 jours. Et le CT45, ben, c'est plus pour des gens qui ont risque d'avoir des traces de coronavirus qui feraient en sorte que peut-être que la personne l'a eu puis qu'elle est en phase de rémission puis qu'elle n'est pas infectée. Donc,
il y a plusieurs tests alors qui testent la COVID.
Ben absolument. Puis tantôt, on disait, là, on parlait de l'ID Nord. Moi, on a vu beaucoup à titre de conseiller à d'autres types de technologies qui sont en instance d'approbation de Santé Canada, qui est beaucoup plus rapide que ID Now. Donc, il y a énormément. Il y a peut-être une dizaine de solutions rapides. Quand on dit rapide, c'est des tests qu'on peut faire en pharmacie, des tests qu'on peut faire avec très peu d'équipement, qui va avoir une efficacité similaire à celle du ID Now et qu'à ce moment-là, on pourrait se procurer facilement ailleurs et désengorger, si on veut, les hôpitaux et d'avoir les résultats dans l'heure qui suit, voire dans les minutes qui suivent le prélèvement. Et présentement, toutes ces études-là sont en instance d'approbation de Santé Canada, mais c'est quelque chose qui, à mon avis, devrait arriver là cette année, là, avant Noël, là, d'avoir des solutions beaucoup plus rapides et simples là, pour tester si on est positif à la COVID.
Ah non, c'est clair qu'un test qui serait disponible en pharmacie, là, ça changerait la donne complètement, là.
Effectivement, mais c'est quelque chose qui s'en vient. À savoir qui va contrôler le test par la suite. Est-ce que c'est le pharmacien? Est-ce que c'est un laboratoire indépendant? Ça, on ne sait pas, mais la technologie, les technologies qu'on connaît aujourd'hui, antigéniques, elle a avancé beaucoup. C'est juste que là, il faut faire des preuves et prouver à Santé Canada que c'est aussi efficace. Mais moi, je suis très confiant qu'on va être en mesure d'avoir des tests beaucoup plus rapides très bientôt.
Vous avez fait beaucoup réagir, Mark Hamilton, en disant tout à l'heure qu'il faut avoir été en contact 15 minutes cumulatif, là, la durée de contact là, qui nous met à risque. Moi, j'avais compris jusqu'à maintenant que c'était, il fallait au moins être 15 minutes à côté de la personne. Bon. Mais là, vous dites non, c'est cumulatif, c'est-à-dire 5 minutes ici, 5 minutes là. Puis je pense que Jonathan, d'ailleurs, a un peu une question qui va dans ce sens-là. Bonjour, Jonathan.
Oui, bonjour. Ben, en fait, bonjour à vous deux. Moi, c'est ça, je m'interroge, c'est quoi la différence entre quelqu'un qui va faut 15 minutes cumulatifs, alors que, par exemple, on va dans un supermarché, on croise quelqu'un, un éternuement, pouf, là, pourquoi 15 minutes? Si j'embarque dans un véhicule avec quelqu'un, 5 minutes, un petit transport, j'aimerais connaître la différence, là. Pourquoi 15 minutes et pas 2 minutes, c'est suffisant pour être contaminé, par exemple?
Oui, c'est ça.
Ben, c'est une très bonne question. C'est évident que si on est à côté de quelqu'un qui éternue puis qui garoche des centaines de millions de gouttelettes dans l'air, que vous aspirez puis vous n'avez pas de masque là, puis que vous aspirez directement cette air-là, ça prend pas 15 minutes. On parle de quelqu'un d'être à côté d'une personne qui est porteur, mais qui peut être asymptomatique. Mais on parle d'un 15 minutes lorsqu'on est à moins de 2 mètres, mais un 15 minutes cumulatif. Mais à ce moment-là, il y a des cas de figure qui fait que, écoute, là, j'étais avec une personne, puis elle m'éternue dans le visage, puis tu sais. On s'entend toujours de la charge virale qu'on va respirer.
Mm-hmm.
Dans l'air ambiant, pourquoi que dans les supermarchés, exemple, quand on s'en va, un exemple, dans un centre commercial, les centres commerciaux sont encore ouverts, c'est parce que quand tu t'en vas magasiner, on sait qu'on peut pas socialiser, mais quand tu t'en vas dans un dépanneur ou tu t'en vas dans un centre commercial te chercher des vêtements, tu vas acheter ce que tu as besoin, tu vas t'en aller tout de suite payer, puis tu vas t'en aller. Donc, les gens que tu vas peut-être 25-30 personnes autour de toi, mais tu vas rester une minute, deux minutes, trois minutes, les gens portent tous des masques, à ce moment-là, tu diminues beaucoup ta probabilité de l'attraper. Donc, c'est pour ça qu'ils veulent avoir de dire, ben, c'est la CNESST qui s'est écrit dans leur règle de base que c'est un 15 minutes en ligne ou un 15 minutes cumulatif sur une journée. C'est fait partie de leur guide. C'est ce que nous, on suit parce que on doit suivre les règles de la CNESST en milieu de travail.
Mm-hmm.
Et c'est ça. Donc, c'est 15 minutes cumulatif sur une journée à moins de 2 mètres d'une personne. Donc, si tu respectes toujours ton 2 mètres, tu comptes pas tu mets pas le minuteur en marche. Donc, c'est un peu ça les règles de base. Donc, il y a toujours le raisonnement, mais si on porte un masque et que vous êtes moins de 15 minutes cumulatifs dans une journée, les risques sont faibles. Ça veut pas dire que c'est zéro. Les risques sont faibles.
Comme Jean, là, tout à l'heure, Mark Hamilton, le cas de Jean là, qui nous a allumé là-dessus, qui disait que son collègue, la mère, la COVID, lui, il l'a déplacé, dont il l'a même touché, puis il rentre travailler en attendant le résultat de son test. C'est quoi les probabilités? Là, évidemment, je sais que vous n'avez pas de boule de cristal, mais ce que vous en savez, là, de vos
c'est
études.
Une personne à risque. C'est une personne à haut risque. Surtout si cette personne-là n'a pas porté de masque. On ne sait pas si elle portait le masque avec sa mère ou sa mère portait un masque. C'est sûr que si les deux portent un masque, on diminue déjà le risque de beaucoup. Mais il reste une personne qui a probablement été plus que 15 minutes avec sa mère, proche de elle. Donc, elle devient vraiment une personne très à risque de potentiellement contracter la maladie. Fait que cette personne-là devrait rester à la maison. Donc, il faut juste éviter. Quelque chose qui est fait important...
Mais Jean, lui, qui est un collègue de travail, est-ce qu'il est à risque aussi, vu qu'il a peut-être touché le bureau que l'autre venait de toucher, là?
Prenez toujours le raisonnement du 15 minutes. Si cette petite gens l'a vu, puis il dit, écoute, j'ai été à moins de 2 mètres pendant 2 minutes, j'avais un masque en plus, le risque est faible. Il n'est pas zéro, mais il est très faible.
Donc, merci.
C'est pour ça qu'il faut y aller comme ça.
Merci beaucoup, Mark Hamilton. C'est très éducatif tout ça. Mark Hamilton est microbiologiste, il est président de Eurofin et Environex. On s'arrête ici. On a pris un peu de retard, mais je trouve que ça valait la peine de clarifier tout ça. Là. On va parler d'ailleurs au docteur François Marquis après la pause. Il va nous dire ce qu'il en pense, lui, de ce test rapide. On dit que le dépistage là, de la COVID, c'est vraiment le nerf de la guerre. Alors, c'est directement dans l'actualité là, ce dont on discute ensemble en ce moment. On continue la discussion après cette courte pause. Avec nous, le docteur François Marquis, chef de service aux soins intensifs à Maisonneuve-Rosemont. Bonjour, docteur Marquis.
Bonjour. Bonjour.
Là, on vient de parler de beaucoup de choses avec le microbiologiste Mark Hamilton. Les auditeurs, évidemment, se posent des questions par rapport à ce fameux test rapide 15 minutes. Évidemment, les Ontariens, on le disait aussi, l'ont reçu avant nous. Mais là, Justin Trudeau disait hier, il confirmait qu'à notre tour au Québec, on recevrait le 200 000 kits de tests de dépistage rapide de la COVID. Il disait aussi que le dépistage, c'était vraiment, ça faisait vraiment partie de la solution. Vous comptez beaucoup, vous, sur, dans un milieu hospitalier, François, sur l'arrivée de ces tests rapides?
Bien, ces tests rapides-là sont intéressants, pas juste pour les gens qui ont la COVID, parce que si quelqu'un arrive puis qu'il a tous les symptômes puis qu'il y a plein de contacts positifs parce qu'il y avait une éclosion dans sa famille, c'est pas si utile que ça. Là où c'est vraiment, vraiment utile, c'est quand on a, par exemple, un employé qui se présente dans un lieu de travail et là, on s'inquiète pour les gens qui travaillaient dans la même zone que lui, bang, on peut savoir tout de suite s'il y a des contaminés ou pas et arrêter ça dans l'œuf. L'autre moment où c'est vraiment utile, c'est si, par exemple, on a quelqu'un qui a besoin d'une chirurgie urgente. Là, présentement, il faut se préparer dans les salles d'opération en cas de COVID. Donc, si je suis capable d'avoir un test rapide pour dire, écoute, cette personne-là est sécuritaire, c'est certain que tout le monde fait encore attention, mais il va avoir accès probablement à sa chirurgie plus rapidement. Donc, pour tout le monde, avoir un certain nombre de ces tests ultra rapides-là, ça va être bien utilisé, ça va être un atout.
Ça va être un atout, on se comprend. Vous, dans le milieu hospitalier, c'est clair. Là, tout à l'heure, Sylvie disait elle avait travaillé dans une zone à COVID où il y a eu une éclosion. Elle a fait le test. Elle a quand même continué de travailler. Ce genre de cas-là, est-ce qu'il y en a plus qu'on pense, Dr. Marquis?
Ben, c'est parce que ça dépend aussi quel type d'exposition dont on parle. Donc, je prends un exemple. Sur une aile à Maisonneuve-Rosemont, sur un étage, il y a 4 ailes. Si j'ai une éclosion dans l'aile A qui est diamétralement opposée à l'aile B, puis que j'ai une infirmière, oui, qui était sur les mêmes lieux de travail, était sur le même étage, et elle travaillait complètement dans le fond d'une autre aile, puis elle connaît même pas l'infirmière pour dire quelque chose qui est en contact ou le patient qui est en contact, ça me dérangerait pas qu'elle continue de travailler. Mm-hmm. Par contre, ça me dit qu'elle a traversé l'ascenseur et qu'elle est allée porter avec cette personne-là un patient en médecine nucléaire pour dire quelque chose, ça y a pris 20 minutes de se rendre. Là, on est sur une autre paire de manches. C'est qu'il faut utiliser sa tête dans les contacts et voir qui est un contact à haut risque d'un contact qu'on va vérifier pour être certain. Il y a une grosse différence entre les deux.
Et justement, on a beaucoup parlé là, de la durée de contact. Tout à l'heure, là, le fameux 15 minutes, puis là, on se fait rappeler ce qui est dans le guide de la CNESST, c'est-à-dire que il s'agit bel et bien d'un contact cumulatif de 15 minutes. C'est pas 15 minutes minimum être en contact à la fois. Là, c'est 15 minutes cumulatif, fait que ça peut être vite fait, là, 15 minutes quand tu es au travail, par exemple. Et en même temps, Mark Hamilton nous disait tout dépend de la charge virale de la personne avec qui on a été en contact. Fait que ça devient compliqué là, de le savoir. Là.
Oui, et en fait, c'est à peu près impossible de le savoir. Pourquoi on dit ça? C'est pour donner des ordres de grandeur aux gens, pour que les gens comprennent un peu le concept du risque. C'est que c'est effectivement cumulatif, comme les radiations. Hein, si je reçois des radiations le matin, puis je reçois des radiations dans l'après-midi, le dommage s'accumule. Maintenant, il y a une capacité de réparation du corps. Autrement dit, parce que tout le monde va avoir rencontré quelqu'un 15 minutes après 3 jours. Là. Donc, effectivement, si on n'a pas été atteint le lendemain, on peut dire un peu que le 15 minutes revient à zéro. Et pour ce qui est de la densité des particules, ben effectivement, c'est tout à fait vrai que quelqu'un qui est extrêmement contagieux, ceux qu'on appelle là, les super spreaders, ces gens-là, peut-être qu'une courte rencontre d'une minute est suffisante, surtout si on est dans des lieux fermés, notamment les ascenseurs ou les véhicules.
Hmm. Comment vous les appelez, là, ceux qui comptent, les hyper, comment?
C'est le terme anglais, là, c'est super spreader, c'est ceux
qui l'étalent. C'est comme la confiture, ouais, là. Ils sont généreux de gouttelettes, là. C'est ça, les super spreaders.
Exactement.
C'est
que des fois, certains, c'est par leur attitude, qui font pas attention, portent pas de masque, crient à tue-tête, etc. D'autres, c'est simplement, ils sont des malchanceux, ils ont une maladie qui peut être sévère au niveau de leur nez et ils fabriquent beaucoup de virus. Ouais. Fait que les deux options.
On va s'arrêter ici. Docteur Marquis, reste avec nous. On a une question de Dominique tout de suite après la pause. Il y a beaucoup d'auditeurs qui veulent intervenir. Il nous reste seulement quelques minutes, mais on va essayer de vous entendre le plus possible. À tout de suite. On a Dominique qui est avec nous. Bonjour. Vous avez une question, je pense, pour le docteur Marquis?
Ben, c'est plus un commentaire. Au fond, là, c'est que je trouve le manque de communication par rapport à ce que moi, ma conjointe va accoucher d'ici deux semaines.
Oui.
Et si j'aurais pas appelé à l'hôpital, oh mon Dieu Seigneur, j'aurais été dans la merde, comme on dit.
Pourquoi?
C'est vraiment sévère, les mesures. Premièrement, quand elle va accoucher, il faut que je l'amène à l'entrée de l'hôpital. Elle doit entrer seule faire son admission. Par la suite, faire un test de COVID. Et si elle est admise, là, eux autres, ils m'appellent. Moi, vraiment, pour que je reste dans mon véhicule en attendant que l'hôpital m'appelle. Par la suite, faut que je monte tous les bagages et je suis cloué à la chambre d'hôtel, à la chambre d'hôpital pendant 36 heures. Ils m'ont dit d'amener une glacière avec du manger et aussitôt que je sors de la chambre, je suis expulsé. Mais si moi, j'aurais pas appelé, personne ne me l'aurait dit. Je trouve ça plate. Je trouve ça vraiment dommage.
Mais oui, puis, mais c'est aussi... Donc, ce que vous dites, c'est que à partir du moment où vous rentrez, votre conjointe rentre pour accoucher, puis là, vous, c'est quoi? C'est 36 heures sans pouvoir sortir de sa chambre. OK, je sais pas si...
Je comprends ça. Non, je comprends ça. J'aurais aimé ça que l'hôpital nous appelle pour nous dire ces recommandations-là.
Vous l'avez appris en vous... Ouais, vous avez appelé vous pour savoir s'il y avait des mesures. Ouais. Merci. Merci, Dominique. On a Yves avec nous. Bonjour, Yves.
Bonjour.
On vous écoute?
OK. En ce moment, je suis hospitalisé en isolement depuis deux semaines pour une infection pulmonaire. J'ai été transféré pour un test qu'ils ne pouvaient pas faire à l'hôpital où je suis, au Royal Victoria. Devant l'entrée du Royal Victoria, il y a un tempo de 20 pieds.
Ouais.
Il y a les portes pour rentrer. Puis 50 pieds plus loin, il y a le gardien de sécurité. Quand je suis arrivé là, à 8h moins 20 le matin, il rentre à peu près une personne à toutes les 10 secondes. Mais en dessous du tempo, il y avait du monde qui fumait, pas de masque, qui crachait partout, parce qu'il fume.
Mm-hmm.
Quand je suis allé voir le gardien de sécurité, j'ai dit, il y a quelque chose qui ne marche pas. Là. J'ai dit, il faudrait qu'il voie ton visage au moins. J'ai dit, l'entrée, c'est pas les portes, là, c'est le bout du tempo.
Ouais.
Il dit, non, l'entrée est là. Mais j'ai dit, voyons donc. J'ai dit, comment ça se fait qu'il y a plein de monde qui fume puis qui discute sans masque? Puis là, il rentre plein de monde. Puis là, tu me dis que l'entrée...
Oui, je comprends. Vous trouvez ça aberrant que finalement qu'il y a encore des gens...
Non, mais ce qu'ils me disent, c'est parce que je suis noir.
On va pas aller là, parce que là, moi, j'embarque plus dans ces affaires-là. Là. Mais la question du masque est importante. Ce que Yves nous dit, c'est que... Puis il nous reste peu de temps, là, mais je voudrais entendre le docteur François Marquis là-dessus sur les règles d'hôpital, parce que là, on a le code Dominique qui dit qu'il n'était pas au courant, finalement, des mesures pour sa femme qui va accoucher. Yves dit que lui, il est à l'hôpital, puis il voit des gens qui fument, pas de masque, à la porte de l'entrée. C'est vrai qu'on dirait que par moment, puis je veux dire, si j'ouvrais juste les lignes là-dessus, je pense que tout le monde aurait une anecdote à raconter qui prouve que les mesures, il y en a qui respectent, puis il y en a d'autres qui en font fi complètement, hein, François.
Oui, puis c'est effectivement une des raisons pourquoi on est dans le coup dans deuxième vague, on est jusqu'au coup dans deuxième vague. Là. Si tout le monde avait fait les choses comme il faut, puis qu'il n'y avait pas eu ces gens-là, on serait certainement dans une situation plus agréable aujourd'hui. Maintenant, pour ce qui est des femmes enceintes puis des règles d'accouchement, faut comprendre que même si ces choses-là, ils ont l'air un peu difficiles, le but en arrière de ça, c'est de permettre aux conjoints d'être ensemble pour cet événement-là.
Ouais.
Parce qu'à l'origine, le concept, c'était simplement de dire il n'y aura que la femme enceinte qui viendra accoucher.
Ouais.
Et ça, c'était très restrictif. Donc, oui, on a ces mesures-là un peu complexes. J'invite les gens à appeler. Hein. C'est rare qu'on accouche sans préavis. Donc, effectivement, appelez pour voir dans votre hôpital, ça va être quoi les règles, parce que selon les zones, ça change.
Mais d'où l'importance de ce fameux test de dépistage rapide, parce que Là, on le voit, et que ça soit le ID Now de la compagnie Abbott ou d'autres. Tout à l'heure, notre microbiologiste Mark Hamilton disait qu'il y en avait à peu près une dizaine d'autres. Là, peut-être qu'éventuellement, il disait, lui, qu'il allait être très confiant que même, à un moment donné, on puisse en acheter un en pharmacie, qu'on se le fasse nous-mêmes. Comme on fait bien des tests d'ADN là, pour savoir c'est quoi ta généalogie. Là. Il t'envoie ça par la poste, tu renvoies ça. Tu sais, dans le fond, là, il me semble que la technologie...
C'est juste que les conséquences sont différentes. Oui, il y a ça. Un test d'ADN, exact. C'est qu'on se trompe.
Ouais. Exactement. J'allais le dire, évidemment, c'est peut-être... va falloir y faire attention, mais quand même, avant d'arriver là, c'est clair que un test qui prend 7 jours, 10 jours, des gens m'écrivent pour me dire, voyons donc, j'attends encore mes résultats. Pendant ce temps-là, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont en attente de tests, de résultats de tests, et qui continuent de travailler. Ils sont peut-être asymptomatiques et donc porteurs. C'est pas étonnant
c'est
que les...
Certain, ouais. C'est certain qu'avoir un test très rapide va faciliter la vie à tout le monde. Parce que, justement, dans des cas comme ça, où conjoint se présente, madame est sur le bord d'accoucher, bang, on fait le test à toute la petite famille, et on a un niveau de sécurité de plus. Ça va rendre les choses plus simples. Maintenant, il faut juste se rappeler une chose, ces tests-là ne sont pas parfaits, et donc, il faudra pas se surprendre à un moment donné. On va avoir un faux négatif qui va se glisser, ou un faux positif, mais c'est un risque qu'il faut être capable d'accepter, parce que ça n'existe pas, malheureusement, un test parfait.
Ouais, effectivement. Mais il y a des expériences. Là, je lis que Air Canada a commandé des trousses, 25 000 trousses de dépistage rapide de ce test-là, ID Now, dans le but là, de pouvoir réduire la quarantaine pour les voyageurs. On dit que sur 99 % des gens qui ont été testés, là, il y avait des gens qui étaient volontaires pour se faire tester quand ils revenaient au pays. Il n'y en a qu'un pour cent qui aurait reçu un résultat positif. Alors, on reviendra là-dessus, d'ailleurs, fort intéressant. Merci beaucoup, Dr. François Marquis, d'avoir pris le temps de nous parler. Merci bien.
Ça fait plaisir. Au revoir.
On se retrouve après les nouvelles. On va parler d'aidants naturels. Restez là, tout le monde.